Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons développer les quatre degrés, qui sont quatre notions dans le développement de n'importe quel sujet pour arriver à sa définition. Je veux dire par là que pour passer de l'infini au fini, il faut passer par quatre étapes. À chaque fois que je veux transcrire une réalité profonde en une réalité concrète, palpable, je dois traverser ces quatre degrés qui sont en réalité quatre éléments révélateurs d'une seule vérité. C'est comme si je disais que le monde dans lequel nous sommes, il est tout le temps visible par 4 degrés. Ce sont 4 degrés d'approximation qui correspondent bien entendu aux 4 lettres du nom d'Hachem. C'est-à-dire que les 4 lettres, le tétragramme, n'est en réalité qu'une révélation de ces quatre niveaux de révélation. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, se dévoile dans notre monde en passant par ces quatre degrés. Les quatre lettres de son nom ne sont pas en réalité quatre lettres qui nous désignent son nom, il n'a pas de définition. C'est l'infini, béni soit-il. Alors comment est-ce que tu peux donner des lettres? Tu ne peux pas limiter Dieu, ne serait-ce que par des lettres, c'est interdit. Alors c'est quoi ce nom-là? Le Yudke Vavke, en réalité, ce sont les quatre étapes nécessaires à traverser pour passer de l'infini au monde fini. Donc on va traduire ces quatre lettres comme étant l'être, l'existence, donc la vie. Shem Havaya, le nom de l'existence. Le nom de la vie, et non pas le nom d'Hachem, le nom de Dieu. Ça ne veut rien dire. Donc j'appréhende la vie par ces quatre lettres, qui en elles contiennent ces quatre étapes nécessaires à traverser pour dévoiler quelconque degré au niveau manifesté. C'est pas du charabia. C'est-à-dire à chaque fois que je veux passer d'une idée pour en faire quelque chose de concret, il faut que je passe par ces quatre degrés. Au niveau de mon art, je rentre à l'atelier pour commencer une toile, j'ai 4 degrés d'évolution pour arriver à une toile aboutie, à une œuvre d'art terminée. Il faut que je traverse absolument ces 4 étapes. Que je sois conscient que je les traverse ou que je ne sois pas conscient que je les traverse, de toute façon, il faut les traverser. Sinon, tu ne peux pas arriver à quelque chose de concret. Ce sont en réalité 4 marches de la fameuse échelle de Yaakov. Si on vous pose la question combien de marches il y avait dans cette échelle, il n'y avait que 4. Alors que dans vos idées, dans vos rêves, il y a des milliers d'escaliers. En fait, c'est une échelle à 4 marches, c'est tout. Et cette échelle, c'est une seule échelle. Mais elle est façonnée, elle est fabriquée de 4 étapes. Pour monter et pour descendre, il faut utiliser ces 4 marches. Donc je monte en réalité sur les 4 lettres du nom d'Hachem et je redescends sur ces 4 lettres. Ken.
C'est pas que pour transformer de l'infini au fini, c'est aussi pour aller de l'infini du fini à l'infini.
Tu vas nulle part. Tu dévoiles. Tu dévoiles dans le fini le monde infini. Nachot. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé de l'infini un monde fini. Okay? Ça c'est les anges. Les anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire ils montent pour chercher des explications profondes à ce qui se passe dans notre monde et ils redescendent pour nous amener dans notre monde à nous, ici-bas, toutes les notions qu'ils ont acquises dans les mondes supérieurs. Donc le but, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est de monter pour redescendre. Et non pas descendre pour remonter. C'est pour ça que les anges, Olim veYordim, précisément, dans cet ordre-là. Parce que tout notre but dans ce monde, c'est de monter dans les valeurs supérieures pour les faire descendre dans la concrétisation, dans la réalisation de l'être. Vous êtes avec moi? Ok. Alors, maintenant, tout ce que je viens de vous dire, ça se résume en un seul mot, une seule définition, la Emouna. La Emouna, en réalité, c'est rien d'autre que cela. C'est-à-dire la capacité à dévoiler, à révéler dans le monde d'en bas toutes les valeurs du monde d'en haut. Alors, on va suivre dans le texte. Emouna, Arba, Madrigot, Agiloui. Donc la Emouna, les quatre étapes du dévoilement. A Emouna, Hitargum, Arayon, Apnimi, Le Asiya. Donc toute Emouna, toute foi, toute réalisation, toute certification, c'est en réalité la traduction d'une pensée infinie en réalité. Yesod a Emouna. Le fondement même de la Emouna, c'est de prendre des idées très profondes et de leur donner vie, de les cristalliser. Emouna hi peulat ha'otza min hakoach el hapoal. Donc la Emouna, c'est une action, c'est une manière de vivre qui aide l'homme à dévoiler, à révéler toutes les valeurs pour lesquelles le monde a été créé. Mais tu prends ces valeurs et tu les concrétises, tu les amènes, tu les achemines vers le monde d'en bas dans lequel nous sommes. C'est ce qu'on appelle la Emouna. Avec des mots simples, quand je dis « anima amin », ça ne veut pas dire « je crois » ou « j'ai la foi ». Mais je concrétise, je réalise ce en quoi j'ai foi. Donc dire anima amin, ce n'est pas simple. Anima amin, je veux voir de facto comment tu es ma amin. Qu'est-ce que ça veut dire, en quoi consiste ta emouna? À tel point que tu me dis anima amin. Par exemple, le Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, il se moque des gens qui disent anima amin. Mais littéralement, ils se moquent. Ils disent qu'il y a des gens qui disent anima amin be'emouna shlema be'biyat ha-mashiach. Ceux qui disent j'ai foi complète en la venue du Mashiach et qui n'habitent pas en Eretz Israël, dit le Rav Yehuda Levi, c'est comme des perroquets qui sifflent. Parce qu'ils disent, d'accord, ils disent, et alors? Mais ils ne sont pas en train de le concrétiser. C'est-à-dire que pour lui, dire Anima Amin Be'emouna Shlema Be'biyat HaMashiach, j'ai une foi réelle en la venue du Mashiach, c'est pas le dire. C'est le certifier, d'abord en étant avec ton peuple sur cette terre. Ken? Alors, le but, c'est de comprendre ce degré. Et donc, tant que tu n'es pas sur cette terre, tu es dans une catégorie de manque de Emouna. Où est-ce qu'on a vu ça? Non? Tehilim. Tehilim 37. Que dit le Tehilim 37? Shkon Eretz, tant que tu n'habites pas sur la terre d'Israël, ou Ra'e Emouna, tu n'as pas encore de Emouna. Ça fait du mal, hein? Okay, ça fait très mal. Mais David HaMelech, il sait exactement de quoi il parle. Alors effectivement, il y a des époques où on ne peut pas. Eh bien, on est dans une situation temporelle de manque de Emouna. C'est tout. Et il faut revenir pour augmenter le volume de la Emouna, son intensité, en faisant tout ce qui est nécessaire pour certifier ce en quoi tu dis que ta foi. Mais dire seulement, ça ne veut rien dire. Si je suis fidèle à mon degré intérieur, je suis ma amine. D'ailleurs, en hébreu, comment on dit être fidèle à? Ne'eman. Donc je subis la emouna. Ani ne'eman. Ne'eman la makor. Certifié conforme. À la source. Donc la Emouna, c'est quoi? C'est la capacité à certifier les choses et à les concrétiser, et non pas seulement à en parler. Parce que parler, c'est facile. Mais agir selon ces critères, ça c'est un autre niveau. Vehine, minekudat arayon akamai. Si on prend l'idée première, ad lofaato be'olam ha'asiya, jusqu'à son arrivée à cette idée dans le monde de l'action, dans lequel nous sommes, yeshnam arba'a shlavim, il y a quatre étapes, ha'me'afshirim lekol otam arachim shmeimim litlabesh bemusagei ha'olam hazeh bezman bemakom ubenefesh. Quatre étapes sont nécessaires pour prendre des valeurs supérieures, des degrés infinis, et d'en faire quelque chose de concret dans notre vie, et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de l'être. Donc à chaque fois que tu veux amener à vivre quelque chose de l'ordre de l'infini dans le monde fini, quelque chose de l'idée que tu veux concrétiser, il faut que tu traverses ces quatre étapes. Keneged otam shlavim anu motzim arba'a olamot. Face à ces quatre étapes, la Kabbalah nous enseigne qu'il y a quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Ve'asiya. Voici les quatre mondes dans leur ordre, tels que les kabbalistes nous les ont donnés. Le monde premier qui s'appelle Atzilut, on est encore dans un monde supérieur, on l'appelle Atzilut parce qu'on est encore chez lui, Etzlo. Bria, connotation d'extériorisation des choses, Barra. En hébreu et en araméen, être dehors, c'est-à-dire tu commences déjà à sortir. Donc dans le monde de Atzilut, le premier monde, on est encore dans les secrets, dans l'idée première, dans la graine, dans la source. Mais on ne voit rien encore. Dès que cette source commence à sortir en route, elle est déjà dans le monde de Beria. Troisième monde, Yetzira, qu'est-ce que tu en fais? Tu commences à la façonner. C'est-à-dire l'idée qui est sortie, tu commences à lui donner un sens. Ve'asiya, et tu termines en l'amenant au niveau de tes actes, c'est-à-dire de la réalisation concrète. Donc l'idée première qui était dans le monde de Atzilut, elle arrive dans le monde de Asiya, dans la concrétisation totale. Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Eluhen arba komotav shel hasulam, shel sulam echad. Voici les quatre marches d'une seule échelle. Cette fameuse échelle, Mutsav Arza. Qu'est-ce que ça veut dire, Mutsav Arza? Non. Il a fait. Rappelez-vous des enseignements, sinon ça ne sert à rien. Mutsav Arza veut dire que l'échelle tend vers la terre. Il n'y a pas marqué Ba'aretz. Arza, c'est une direction. D'accord? Donc l'échelle va vers la terre. Sans arrêt, elle va vers la terre. Jusqu'où? Il n'y a pas de jusqu'où. Ça continue. Vers la terre et vers la terre de la terre et vers la terre de la terre de la terre, vers la manifestation la plus grossière possible et imaginable. La plus matérielle. Sans arrêt. À l'infini. Verosho magia shamaima. La même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que la tête de l'échelle tend vers le ciel sans jamais y arriver. Donc en fait, il s'agit ici d'une échelle infinie qui n'est ni en bas, ni en haut, mais qui va toujours vers le bas et qui va toujours vers le haut. Et combien de marches possède cette échelle? 4. C'est-à-dire que pour faire le lien entre cet infini, entre guillemets, qui est inatteignable, et ce monde d'en bas, pareil, on n'arrive jamais au bout, il faut toujours traverser 4 étapes. Ou 4, ou des multiples de 4. C'est pour ça qu'il faut traverser 40 ans de désert pour arriver de l'Égypte en Eretz Israël. Il y avait une question avant.
Je veux bien, en haut, on a pas le Ensof, on ne peut pas l'atteindre.
Okay.
En bas, c'est un monde matériel.
Et alors?
Même si elle tend vers la terre, elle touche la terre.
Mais alors? La terre est infinie ou finie?
Finie.
Ah bon? Aujourd'hui, aucun scientifique n'arrive même pas à la fin de la matière elle-même. Dans la matière, on trouve l'infini. Si je te rendais assez petit, je pourrais te rentrer maintenant dans une cellule. Et la cellule pour toi serait comme l'univers tout entier. Tu es d'accord ou pas? Non, ne me fais pas comme ça. Ou oui ou non.
Oui, oui,
c'est tout. L'infiniment petit est infiniment petit. Infini. Si tu étais assez petit, tu aurais pu traverser le mur. Tu sais pourquoi ? Tout simplement, tu traverserais deux molécules de ce mur, de cette matière, qui pour toi serait à une distance de 10 milliards de kilomètres l'un de l'autre.
Mais si on parle du fini à l'infini,
c'est tout.
Cette dimension, comme vous dites, de ok, de l'infini vers l'infini, il y a bien un fini ?
Non. Non. Tout ce qui nous paraît être fini est lui aussi de l'ordre de l'infini. Seulement, on n'a pas de matériaux, d'appareils suffisamment forts, grands, pour nous permettre de voir l'infini qui se trouve dans le fini.
Donc mais, le concret est infini ?
Mais voilà.
C'est-à-dire que la réalisation est infinie ?
Exactement. Parce qu'elle vient réaliser l'infini. Donc en fait, si vous voulez vous poser des questions jusqu'à quand on va étudier la Torah, jusqu'à quand on va l'appliquer ? C'est l'infini, puisque tu es en train de réaliser l'infini. Donc nous vivons l'infini. Donc nous devons réaliser l'infini. Donc tu ne peux pas réaliser l'infini si tu le bloques. Donc c'est une réalisation qui n'a pas de fin. Quel?
Comment on monte sur l'échelle si ça ne peut pas?
Bien, alors on monte sur l'échelle, c'est-à-dire on est dans une éternelle évolution. Et chaque étape de cette échelle, elle aussi est subdivisée en quatre. C'est-à-dire que si je reste seulement dans la première marche de l'échelle, on va dire que c'est le monde de Asiya, le monde de l'action. Avant d'arriver au monde d'avant, tu dois traverser quatre étapes de ce monde lui-même. Et les quatre étapes sont subdivisées en quatre étapes. Et les quatre étapes sont subdivisées encore en quatre étapes. Ça veut dire que tu es tout le temps dans un infini qui se divise par quatre étapes. On est placé un petit peu au milieu. Voilà.
Parce que vous avez dit que la chaîne...
Non, je suis en train de t'expliquer.
D'accord.
Tu es placé au milieu. Quand tu marches sur le parterre, tu t'enfonces ? Non. Pourquoi ? Il y a bien une attraction terrestre. Tu devrais rentrer. Pourquoi elle ne t'avale pas la Terre ? C'est de la physique. Et alors ? Qu'est-ce que tu m'as répondu en disant c'est de la physique ? Imagine-toi, quand tu me poses une question, je te dis, c'est de la Torah, ça. Je t'ai pas répondu. Ça veut dire c'est comme ça, il n'y a rien qui est comme ça. C'est vrai.
Mais
tu n'es pas attiré par les autres planètes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré tout, il y a un téléphone qui sonne. Je veux même pas décrire ce qui a marqué là-bas parce que ça va te mettre mal à l'aise. Top. Vous êtes avec moi ou pas?
Oui.
Ça veut dire qu'en réalité, qui c'est l'échelle?
C'est toi.
C'est toi-même.
Ah, voilà.
C'est toi-même l'échelle. Dont les pieds vont sans arrêt vers le monde d'en bas, vers ce qu'on appelle la terre, et dont la tête va sans arrêt vers le ciel sans jamais arriver, ni en bas ni en haut. Donc en réalité, toi-même, tu es l'échelle. Et d'ailleurs, dans le récit de Yaakov, Veine, Sulam, Mutsav, Arza, Rosho, Magia, Shamaima, ou Malaché, Elohim, Olim, Veyordim, Bo. C'est beau. En Yaakov. Pas dans l'échelle. C'est-à-dire, Yaakov, c'est l'échelle lui-même. C'est-à-dire, vous êtes, chacun de vous, chacun de nous, nous sommes une échelle de valeur qui a combien de marches ? 4 divisé par 4, divisé par 4, divisé par 4, divisé par 4, jusqu'à l'infini. Donc, à chaque fois que tu vas prendre le nom d'Akadosh Baruch Hu, le tétragramme, quand tu vas manifester ce tétragramme, il va se transformer en 4 autres lettres. Ken ? Le Shem Yud Ke Vav Ke, comment tu le dis ? Ado Nchon ? Combien de lettres ? 4. Non, tu as vu 4 lettres, tu dis 4 autres. C'est une embrouille, non ? Tu demandes à un enfant qui n'a jamais lu l'hébreu, il commence à lire. Tu lui dis de lire, il tombe sur le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit ? Yeho. Hein ? Tu dis non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire Ado. Et tu dis, mais attends, vous êtes des malades ou quoi? Il y a marqué 4 lettres, tu me dis autre, 4 autres. La réponse, il faut lui dire oui. C'est comme c'est l'infini, qu'on n'arrive pas réellement à le réaliser sur Terre. On est dans l'approximation. Donc on est encore dans un monde qui définit sans bloquer, sans cristalliser totalement, sans limiter, sans le pouvoir de limitation de ces quatre lettres. Ken.
Si on a un infini d'étapes entre chaque monde, on ne pourra jamais passer d'un monde à l'autre.
Okay. Tu passes à chaque instant d'un monde à l'autre, même maintenant. Tu viens de passer d'un limoud dans lequel tu étais il y a 10 minutes à un autre limoud, tu viens de passer un monde à un autre. Tu es monté deux étages dans la même yeshiva. Tu fais pas attention. Tu es en train de monter de niveau de conscience parce que maintenant je te place à un autre niveau de ce que tu étais il y a 5 minutes. On est tout le temps en perpétuel, montée, descente. Sans arrêt, sans arrêt.
Mais pas dans le même monde.
Peu importe, ça peut être des mondes qui changent, ça peut être des degrés. Chaque fois c'est un changement. Okay? Quelqu'un qui est dans une situation de peur, d'angoisse, si maintenant on annonce la nouvelle aux parents qu'on a trouvé les trois enfants vivants, en bonne santé, ils sont passés de quel monde à quel monde? Tu sais quelle différence il y a entre ces mondes-là? Ils sont passés de la mort à la vie. Alors qu'ils n'ont pas bougé de place, ils sont sur leur chaise. On est tout le temps en train de traverser des mondes. Qu'est-ce que vous croyez? On est tout le temps en train de monter, de descendre dans cette échelle. L'essentiel, c'est de ne jamais monter pour monter. C'est de monter pour redescendre. Car le but, c'est ici et pas ailleurs. Donc les gens qui mettent la mort sur un piédestal, c'est un scandale. Car le but, c'est de vivre ces choses-là dans le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a placés. Ken.
Ils veulent descendre, ils veulent bien entrer sur la terre. Ils veulent être sous la terre.
Qui?
Les morts.
Les morts. Les morts sont absorbés un petit peu plus profondément. Ouais. Par la matière. C'est Nakhon. Nakhon. Ken. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, le mot ADN, c'est les mêmes lettres que le mot Adonai. Okay.
Je sais qu'on parle aussi parfois du Ketz Yud. Alors, ça fait genre un autre mécanisme de 5 dimensions.
Non, parce que tu parles du Kotso chez Yud. Kotso chez Yud, c'est un degré dont on ne parle pas maintenant, qui correspond à un autre monde qu'on appelle Adam Kadmon. Dans la Kabbalah. C'est un monde avant le monde de Hatzilut, mais on n'en parle pas, il n'est pas dans notre système. C'est-à-dire, c'est un monde qui est supérieur, c'est la racine de la racine. Là-bas aussi, tu peux trouver encore une racine. Mais nous, concrètement, les quatre mondes qui nous concernent, ce sont quatre. D'accord? D'ailleurs, on va le voir dans d'autres degrés. Ve'od, she'le'umat arba'at shlavei ha'sulam ha'arkhim hazeh, yeshnan arba kriyot efshariyot ba'torah ba'metziut bichlal. Et donc, grâce à cette compréhension-là, nous pouvons avoir quatre lectures de notre vie. C'est-à-dire, tu peux lire ta vie à quatre niveaux de lecture différents. Seder agishot mimata lemala ukaze, pshat remez drash vesod. Donc, nous avons quatre lectures différentes de la Torah. Le sens premier, qu'on appelle le pshat. Le sens allusif, le remez. Le drash, l'approfondissement des degrés, en essayant de voir des parallèles. Et le sod, le secret. Maintenant, si je prends chacun de ces quatre-là, lui aussi, il a le pshat du pshat, le remes du pshat, le drash du pshat et le saut du pshat. Et chacun se subdivise encore jusqu'à l'infini. Vehofa, mimala lemata, hitziur arba otiot hashem ameforash. Et donc, en regardant les choses du haut vers le bas, nous faisons face ici à ces quatre lettres qui sont en réalité les quatre lettres du nom d'Hachem, donc du nom de l'existence, de la vie tout entière par définition. Donc ne dites jamais que c'est le nom de Dieu, ça ne veut rien dire. C'est le nom, c'est l'expression de l'existence. Et nous vivons de cette existence. À l'infini, à l'infinitif, slicha, lihyot. Lihyot, être. Je suis anihove. Haya, ihye. Le nom de l'être. Shem, havaya. Le nom de l'existence tout entière. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Ken? Pshat, c'est déjà une faute, parce que tu ne peux pas traduire, mais peu importe, on va dire pshat. Au commencement, c'est déjà faux, mais ce n'est pas grave, parce que Bereshit ne veut pas dire au commencement, il aurait fallu dire Barishona, donc je suis déjà rentré dans une discussion. Mais on va dire dans le pshat, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Remez. Bereshit, ça me donne un degré. Je sais que un degré premier d'une pensée, Dieu avait comme vouloir, comme désir, entre guillemets, de créer Shamaim va'aretz, des choses qui sont de l'ordre de Shamaim et d'autres choses qui sont de l'ordre de Eretz. C'est une allusion à quoi? Parce que nous sommes dans le Remez, deuxième étape. Shamaim, c'est l'esprit. Eretz, c'est la matière. Donc, le but de la création du monde, voici la deuxième traduction, c'est de créer l'esprit et la matière. Drash, troisième niveau de lecture. Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, ve'et, haaretz. Combien de mots j'ai? 7. Le monde de la matière est composé de 7 degrés. Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamayim, ve et, haaretz. Ces 7 degrés-là, il faut que je commence à les étudier. Donc je dois savoir que veut dire le mot Bereshit. Est-ce qu'il m'introduit une notion de temps, d'espace, d'homme? Qu'est-ce que c'est Shamayim? Shamayim, là-bas il y a de l'eau. Eretz, ça vient de la racine du mot Ratson, donc le désir. Donc je commence à rentrer. Je vous le fais en cours, hein. Sod, Bereshit, je dois savoir à quoi correspond Bereshit. Reshit, Chochma. Donc je dois savoir que c'est la Sphira de Chochma qui correspond à un monde qui s'appelle Atzilut. Bara, c'est le monde de Bria, donc il commence à sortir de la Atzilut. Elohim, c'est le nom qui correspond au Olam Abria. Et Shamaim, Zeir Anpin, un degré de Kabbalah, Vet Haaretz Malchut. Donc je viens de traverser tous les 7 mots. Juste en vous donnant une connotation de Sphirot. Maintenant, il faut rentrer dans la Kabbalah de la Kabbalah pour expliquer ce que c'est, mais ce n'est pas le Shio.
Ça à notre vie, à
toute notre vie, c'est comme ça.
Je pensais plus un exemple
via un Maaseh. Un Maaseh dans ta vie, c'est pareil. Tu es en train d'étudier maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu es en train d'étudier au Machon Meir. Ça, c'est le Pshat. Nahon? Le Remez, c'est quoi? C'est que tu es dans un Machon qui est en train de te donner, en fait, un sens à ta vie. Il va éclairer ta vie. Machon Meir. Okay. Troisième degré, c'est le degré où toi tu dois utiliser chaque jour où tu es ici dans ton étude pour approfondir, pour être d'oresh, parce que tu es dans un bet midrash. Donc tu dois approfondir et poser des questions, sinon l'année elle se termine bientôt et c'est fini. Tu es sorti du lieu, jamais peut-être dans ta vie tu remettras plus les pieds ici, mais ça va rester un bon souvenir. Sod, tâche de sortir avec le secret de ce que ce machon va te donner, et ainsi de suite dans tout. Tu vas rencontrer une femme. Eh bien, dans cette femme-là, tu as 4 niveaux de lecture. Elle est mignonne. Okay. Quand je lui parle, elle comprend à demi-mot ce que je suis en train de lui dire. Elle est très intelligente parce que je vois qu'elle me répond du tac au tac, elle aussi avec des allusions un petit peu pointilleuses. Et j'ai des secrets avec elle, c'est-à-dire je commence à savoir que même sans dire des choses, on arrive à communiquer. C'est la même chose dans toute ta vie, c'est pareil. Chaque élément de ta vie, tu peux le voir à 4 niveaux différents. Notre problème, c'est que quand on est dans un degré, on oublie les 3 autres. Ou alors on est dans 2, on oublie 2. Ou alors on est dans 3, on oublie le 4e. Ce qu'il faut faire, c'est être dans les 4 simultanément, sans arrêt. Et ça, c'est la plus difficile des choses à faire. C'est sans arrêt. Olim ve yordimbo. C'est-à-dire monter et descendre dans cet ordre de vision sans cesse, sans arrêt, pour essayer de monter dans ton esprit, d'amener des éléments et de vite concrétiser ça. Par exemple, ceux qui écrivent maintenant, ils essayent au maximum de concrétiser des idées pour ne pas les perdre après le chiour. Mais si tu ne comptes que sur ton souvenir, sur ta mémoire, alors il y a certains éléments qui vont partir. Alors que celui qui a écrit et qui fait un résumé en plus du chiour après, dans 10 ans, il peut écrire un livre. Même avant. Okay? C'est pas pareil. Ça, c'est ma Torah. Mais ce que toi, t'as écrit, ça va être ta Torah. C'est-à-dire, tu peux prendre même les feuilles, pour toi, ça ne sert à rien. Kechol shamadriga nemucha yoter. Donc, plus l'étape est inférieure, c'est-à-dire plus elle descend, kacha berurim bagassim yoter, plus les tris, le tri devient de plus en plus grossier. Vehi mavlita yoter et ayachas la pratim. Et là-bas, qu'est-ce qui prédomine de plus en plus en descendant? Les détails. C'est-à-dire, dans cette échelle de valeur, plus je descends, plus je me trouve face à des détails. Plus je monte, plus je me trouve face à des réalités complexes et complètes. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans ta propre pensée, plus tu montes dans ton étude, plus tu approfondis ton étude, plus tu fais face à des notions de klaliut, de tout. Et plus tu es un homme qui est au niveau de la concrétisation matérielle, plus tu descends au niveau des détails de la chose. Je n'ai pas dit que c'est mieux ou moins bien. J'ai dit qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut être capable simultanément de voir le tout, tout en se préoccupant de tous les détails. Extraordinaire. Et dans chaque détail, tu retrouveras le tout. Si tu prends un cheveu du corps humain ou l'ongle du pied, tu as le même ADN. Tu as la même carte de la génétique. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quel détail dans ce monde, il faut que je sache à quel collectif, à quel ensemble il appartient. Toute l'étude de la Torah, c'est là. C'est de savoir comment les détails s'inscrivent dans un tout. Mais si tu étudies la Torah comme des éléments déchiquetés, séparates, séparés les uns des autres, hier tu étais dans le truc, aujourd'hui tu es là, tout à l'heure tu étais dans la Gemara, maintenant tu es dans le Sod, tu te dis, bon, non, c'est sympa, on prend un petit peu à droite, à gauche. C'est pas encore de la sagesse. La sagesse, c'est ça. Chaque fois que tu entends un cours, tu le rentres dans un tiroir déjà. Tu sais exactement à quoi il appartient et tu vois le tout. Ça, c'est déjà un autre degré de Torah. Quel?
Vous avez pas dit, il y a un moment court, que le Yud-Ké Vav-Ké, Yud, c'est une idée, Ré, c'est la concrétisation dans le monde. Si le Ré, le dernier Ré, c'est la concrétisation dans le monde matériel,
quel?
Donc ça correspond au Sod.
Quel?
Le Sod, c'est plus global, et concrétisation dans le matériel, c'est plus...
Nakhon. Non. Le Yud, c'est le Sod. Dans le Pardes, le Pshat, c'est le dernier He. Le Remez, c'est le Vav. Le Drash, c'est le deuxième He. Et le Sod, c'est le Yud. Je suis parti à l'envers. He, Vav, He, Yud.
D'accord?
Parce qu'en réalité, le Sod a précédé le Pshat. Le tout a précédé le détail. Oui ou non? Quand tu prends un puzzle, l'image, elle était avant les pièces? Ou on a juste fait des pièces et on cherche une image? L'image était avant. Donc le sod a toujours précédé le pshat. Même si dans ton approche à toi, tu commences par le pshat, mais en réalité, le sod existe déjà. C'est ça? Je ne vous demande pas d'accepter, d'avaler. Si vous n'êtes pas d'accord, dites. Okay, on est là pour ça.
On prend les termes qu'on a utilisés au début. Comment les détails s'insèrent dans un tout.
Nakhon.
C'est voir l'infini dans le fini.
Nakhon. C'est voir l'infini dans le fini. C'est voir le Aleph dans le Bet. C'est voir l'unité dans le monde binaire. Exactement. Nous sommes sans arrêt en train de faire le lien entre les mondes. Donc nous sommes un trait d'union. Tu avais une question ? Okay.
Parce que on réalise pas complètement cette
infinité. Okay. On n'arrive pas encore, le monde dans lequel nous sommes n'est pas, on va dire que l'être et le paraître ne sont pas encore à égalité. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes cache encore certains degrés que nous ne sommes pas encore capables de dévoiler. Alors on va vers, on tend vers. Ken bayom ahu yeh Hashem echad ou shmo echad. Ce jour-là, lui sera un et son nom, c'est-à-dire sa révélation, seront un. Non, parce qu'il y aura encore d'autres degrés. On arrivera à un tiroir, on aura fermé ce tiroir et on... Hala, on continue. D'accord, c'est l'infini, c'est l'infini. Donc on va vers l'infini. Qu'est-ce que tu as en face de toi? L'infini. C'est tout. On a l'infini en face de nous. Et on a l'infini derrière nous. C'est-à-dire, on est comme un zéro avec plus l'infini, moins l'infini. Des deux côtés. Et sans arrêt, tu marches sur ce... Ken? Sur cette échelle d'infini. Ken? C'est l'idéal.
Sauf que j'ai entendu dans des cours au Marmière où justement quand on va, on se concentre vers quelque chose jusqu'à trouver son essence même.
Okay.
C'est comme si on avait aussi un petit courant électrique qui arrivait sur le doigt et donc qui pouvait passer dans tout le corps.
D'accord.
Donc c'est là que je comprends pas la nécessité de tout, d'un tout. Alors que moi je suis un peu de votre avis de savoir qu'il faut un peu étudier dans tous les niveaux d'interprétation pour en comprendre.
Okay. Je ne sais pas qui a donné le cours, mais peu importe. Quand tu es traversé par ce courant électrique, tu es traversé par le tout. Mais toi, tu n'as pas conscience de ce tout. Moi, ce que je te rajoute ici, sans repousser ce qui a été dit, c'est vrai, c'est que là, je te donne aussi la possibilité de savoir ce qui est en train de se passer quand tu prends le courant. C'est tout. C'est-à-dire tu participes à cette traversée qui est en toi. Tu accompagnes par ta conscience de plus en plus, tu es conscient de ce qui se passe. Ça veut dire que si jusqu'à l'âge de 20 ans, tu ne savais pas comment la respiration de l'être humain marchait, et pourtant tu as respiré 20 ans, eh bien aujourd'hui, on t'apprend la respiration. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout simplement changer que tu accompagnes maintenant cette respiration. Et c'est important de savoir parce que tu peux gérer certaines choses et ajouter... dans cette compréhension. Ok.
Parce que l'essence d'un détail, c'est ce qui justement, c'est la manière dont il se rentre dans l'organisme, mais c'est justement ce qui le rend détail.
Spécifique, non. Alors le spécifique, le détail en question, il est un détail de. Il n'est jamais à part entière. Il est toujours le détail de. Si je te dis par exemple, un rayon, la première question qui doit te sauter à la tête, c'est un rayon de quoi ? Ça peut être un rayon de vélo ou un rayon de soleil. Alors, si tu me dis de quel rayon tu parles, ça veut dire que j'associe ce détail, qui est le rayon, à un tout. Et tu commences à comprendre le détail par rapport à son tout, mais jamais séparé. Prendre un détail et le déconnecter du tout, c'est un cancer en médecine. C'est une cellule qui commence à vivre comme si elle était une existence à part entière. La déconnexion du tout. Donc c'est une maladie. Et d'ailleurs, cette maladie-là se dit dans le langage de nos sages, rachat. Qu'est-ce que c'est un rachat? Le fiche hotzi et atzmo minaklal. Il est sorti du tout. En croyant que son détail à lui, c'est j'ai besoin de rien d'autre. Donc si tu as l'impression que ton être individuel, c'est le tout, tu es en situation très complexe. Okay, très dangereuse. Okay. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire une petite totalité? Je représente dans mon détail un tout. Donc, Tout ce que je représente dans mon petit détail est toujours lié à ce tout et je retrouverai les mêmes caractéristiques que ce tout dans mon détail.
L'infini, je n'en finis pas de réaliser, c'est négatif. Et
tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Ken. Ken. Non, si vous voulez. Ok, ok. Moi, je suis là pour vous. Moi, j'ai écrit ce cours, donc.
Quand on est en ces quatre échelles.
Ken.
Il n'y a pas un risque en.
Pas quatre échelles, quatre étapes. Ok. Il n'y a pas un risque
de. Perdre la tête un peu.
Toujours. Il y a toujours un risque de perdre la tête. C'est pour ça qu'il faut que tu restes avec les pieds qui vont vers la terre et la tête qui va vers le ciel. T'as compris? Et d'ailleurs, si je vais dans le sens où la Torah parle, elle commence par quoi? Par les pieds vers la terre ou par la tête vers le ciel?
Par les pieds vers la terre.
Il y a fait. Tant que tu n'as pas les pieds qui vont vers la terre, n'essaye pas de monter vers le ciel. Exactement. Exactement. Tout ce qui peut t'empêcher de devenir fou, parce que qu'est-ce que c'est la folie en l'occurrence maintenant d'après ce que tu veux dire? C'est en fait de te déconnecter en réalité de la réalité. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre à ta disposition tous les atouts nécessaires pour ne jamais te perdre dans l'étude que tu es en train d'étudier. Et rester dans la cohésion totale entre Ken, ses degrés supérieurs et ses degrés inférieurs.
Par exemple, l'exemple de la respiration. Quand on essaie de se concentrer sur la respiration,
tu commences à respirer mal. Nahon, tout à fait. Tout à fait. Quel? Parce que tant que tu n'as pas les pieds sur terre, comment tu veux monter vers le ciel? Tu as déjà fait du karaté? Tu as déjà fait du karaté? Oui. Tu peux donner un coup de pied à quelqu'un sans avoir l'autre pied stable sur la terre? Ah ouais? Oui, mais ça c'est une... Qu'est-ce que tu as fait avant de donner un coup de pied sauté? Tu as pris une assise très forte pour que le coup de pied que tu es en train de donner, soit tellement fort qu'il te ramène vers la terre avec l'autre. Mais si juste tu te lèves en l'air comme dans un balai et tu donnes un coup de pied, c'est toi qui pars en cacahuète. Ça veut dire que tu ne peux pas en réalité te permettre de monter si tu n'es pas bien ancré. Et donc l'ancrage est nécessaire avant de pouvoir... Nitzavim, va y aller. D'abord, tu es Nitzavim, après tu commences à marcher. Donc, stabilise-toi dans ta vie. Quel? C'est ce que je dis, monter et descendre.
Monter et descendre, mais c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient.
Oui, mais si on dit qu'ils montent et qu'ils étendent, ça sous-entend qu'ils étaient où au départ? En bas.
C'est bizarre que les anges étaient d'abord en bas.
Exactement. Ça vient nous prouver qu'il ne s'agit pas d'anges étranger à Yaakov lui-même. En réalité, ce sont les forces que lui émanait de lui-même qui viennent du bas vers le haut et qui redescendent vers le bas. Et pas des anges, des volatiles, je ne sais pas ce que vous imaginez. Parce que, regardez, là je viens d'envoyer un ange pour lever ce stylo. Ma main, c'est un ange. Elle fait ma volonté. Et elle obéit sans arrêt. Là, je suis en train de lui dire dans ma tête exactement quoi faire. Et elle m'obéit. Je suis en train d'envoyer des anges. Je peux écrire sans me tromper et sans mentir. Vaishlach Yoel Malachim Lakachat et Taet. Et Yoel envoya des anges pour lever et reposer son stylo. Je mens? Non. C'est la vérité. J'utilise tous mes moyens. Ce sont tous des anges qui font la volonté de mon être intérieur. Extraordinaire. Et j'utilise maintenant un autre ange, qui est l'ange de la parole, pour vous arriver dans vos oreilles, et pas seulement dans vos oreilles, dans vos cœurs, dans vos esprits, sans vous toucher. Extraordinaire. C'est quoi cette invention de parole qui peut vous pénétrer à distance? C'est une magie.
Mais comment vous expliquez alors que quand on veut faire quelque chose, ça ne marche pas?
Ah, parce qu'il faut utiliser les bons anges. C'est tout. Tu sais, c'est toujours une question de représentant. On travaille tous pour une grosse boîte. Ça s'appelle Kucha Berichu. Le problème, c'est jamais dans la boîte elle-même, mais toujours, toujours dans les représentants. C'est-à-dire, le mec, il vient me vendre quelque chose, je regarde le représentant, comment il est habillé, comment il se présente, comment il me parle, s'il a des taches sur ses vêtements, s'il s'est pas lavé, s'il me parle mal, si... Les gens, vous connaissez des gens qui n'aiment pas la Torah? Moi, je ne connais pas. Je connais des gens qui sont en colère contre certains représentants de la Torah. C'est tout. Donc, tâchez d'être des bons représentants. Donc, c'est la même chose au niveau de tes anges. Ok.
On a dit c'est les anges qui font une personne. Ça veut dire que des fois, il y a des...
Tu envoies des anges pour faire quelque chose de mal. Tu utilises des forces que Dieu a implantées en toi pour faire le mal. C'est ton libre arbitre. Regarde, tu vois ces trois trous là, hein? Pas forcément. Si tu l'envoies pour faire quelque chose de mal, toi, si c'est ton ange à toi, okay? Regarde les prises de courant là. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux mettre un frigo, ça va le refroidir. Je peux mettre un four, ça va chauffer. Comment je peux faire deux inverses avec trois trous, les mêmes? Non, la puissance c'est la même. C'est l'ustensile qui va changer ce en quoi tu es. C'est-à-dire que le système a été fabriqué dans un four pour chauffer, eh bien l'énergie, elle est là, elle va le chauffer. Mais si j'apporte un système qui a été fabriqué pour refroidir, la même force, la même puissance va le refroidir. Donc il fait deux actions complètement différentes avec la même source. Et d'ailleurs, je peux les brancher en même temps. Une demi-prise qui va chauffer et une autre demi-prise qui va refroidir avec une multiprise. Et on vient du même degré de source, Chevrat Hashman. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des forces à l'intérieur de nous. Et c'est à toi de faire de ces forces-là un façonnage. Ou vers le bien, ou vers le bas. Comment on dit façonner? Yetzira. Yetzer Tov, Yetzerara. Vous croyez que c'est un ange avec une fourche du Club Med? Le Satan? Non, c'est chacun de nous.
Alors, on ne peut pas dire que même le rat, c'est Hachem.
Au contraire. Si tu dis que le rat, c'est Hachem, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est toi. Akadosh Baruch Hu, c'est pas toi. Il t'a donné des forces. Et c'est toi qui les as utilisées, ces forces-là, à mauvais escient. Donc, tu as un problème. Hein? Comment tu vas pas? Bien sûr, tu peux aller contre sa volonté. Tu es dans la liberté totale de l'acte. C'est pas... Non, Chas v'Shalom. Alors comment tu peux venir juger un tueur? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait le choix?
Oui, c'est son intention, mais l'acte en soi...
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce que tu es en train de dire ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, il peut punir en réalité personne. Et que les terroristes qui ont kidnappé les trois, c'est Dieu qui les a kidnappés.
Non, c'est le type puni sur l'intention.
C'est la même chose. Un acte sans intention ne vaut rien. Si je t'ai frappé sans faire exprès, tu vas m'en vouloir? Non. Mais si je te dis oui, j'ai fait exprès de te mettre une gifle, là tu vas commencer à être en colère. Ça veut dire que c'est l'intention qui a changé les choses. Mais l'intention, elle est donnée à l'homme. C'est-à-dire que la même valeur absolue est en moi. J'ai en valeur absolue 10. C'est à moi, l'homme, de mettre le plus 10 ou le moins 10, c'est tout. Donc c'est toi qui crée, c'est toi qui façonne. Pas créer, c'est toi qui façonne. Vers le plus ou vers le moins. Donc tu es responsable de tes actes. Ne bouge pas de ta responsabilité. Sinon c'est trop facile. Quel? Nachon. Non. Non, non. J'ai bien dit ce que je dis. Il faut monter pour redescendre. C'est-à-dire, il faut monter dans ta conscience intérieure pour absorber, pour étudier des valeurs supérieures et les redescendre ici pour les concrétiser sur Terre. Le but, c'est que tu sois où? Là-bas ou ici? Ici. Donc, tu dois d'abord monter pour redescendre. Mais même quand je dis monter, c'est pas monter. Tu vas pas nulle part. Mais tu étudies profondément. Monter, c'est approfondir. Okay.
Et on dit que le Ratson, ça vient pas de nous, ça vient de la Kadosh Baruch Hu.
Nahon. Tu peux faire les choses. Aser et sonha kirtsono. C'est pas son ratson à lui. Je prends son ratson. Son ratson, c'est ma vie. Mais je peux faire de cette vie-là ce que je veux. Si j'ai fait une avera hier, c'est mon problème. Et si j'ai fait avec son ratson une mitzvah, c'est mon atout. Je suis libre. Ne vous embrouillez pas tout seul. Okay? Nous sommes responsables de nos actes.
Mais ce que je veux dire, c'est quoi qui fait que notre ratson est différent?
C'est parce que tu n'es pas assez dans l'association des idées. C'est-à-dire que tu vis en déconnexion de ce grand tout. Tu joues le rôle de la cellule qui a oublié qu'elle fait partie d'un corps. Mais si à chaque instant dans ta vie, tu avais cette conscience-là, jamais tu fauterais. Tu comprends? Quand est-ce qu'on faute en réalité? Quand on sort en réalité de ce grand tout, à un moment donné. Ce sont des sorties d'autoroute. Ah, ça c'est le secret. C'est notre possibilité, c'est Dieu nous a donné aussi ce moyen-là, de se déconnecter, déjà au niveau de notre conscience, de ce tout, de cette totalité. C'est-à-dire, nous sommes assez faibles, nous avons certaines curiosités, certaines envies, okay? Nous sommes assez complexes. Avec, okay? Akadosh Baruch Hu a donné au premier homme l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Vers quoi il est allé? Vers l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, moi, ce que je comprends, c'est ce qui est vrai. Et Dieu voulait qu'il vive d'abord. Le problème, c'est qu'il a choisi l'intellect. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, notre plus grande faute, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise au niveau de l'intellectualisme. On est tout le temps à vouloir dominer tout par notre cerveau et par notre logique. On n'arrive pas à vivre en fait. On ne vit pas, ou on vit moins que ce qu'on devrait vivre. Parce que tout le temps, tu fais passer ça par ton cérébral. Moi, je ne dis pas que le cérébral est négatif, mais il doit venir en seconde position. D'abord, tu dois vivre, et après, tu dois étudier le comment et le pourquoi de cette vie. Mais si tu commences d'abord à étudier avant de vivre, tu es déjà mort. Okay. Mais c'est la vie. Mort, c'est pas l'intellect. Mais voilà, c'est la vie. Mais il faut qu'il y ait d'abord une vie. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Mais je dois d'abord vivre, je dois d'abord subir cette vie avant de commencer à réfléchir. Vous me dites c'est une donnée de base, certes, mais est-ce que je la choisis? Donc je vis, donc je pense. Je suis, donc je pense. Après, je dois penser pour exister un petit peu plus haut. C'est vrai. Mais ce qu'a dit Descartes, c'est valable qu'après avoir d'abord mangé de l'arbre de la vie. Après, je peux commencer à m'occuper de l'intellectuel. Vous ne voulez pas avancer au niveau du cours? C'est pas grave. Je suis à vous, moi, ici. Je suis là pour vous. Vas-y.
Donc, vous avez dit qu'il nous a permis de se détacher de sa volonté. Ça, c'est ça.
Okay. Ben, tu es libre de te détacher de ce qu'il veut.
Ça, c'est ce que vous appelez le
libre arbitre.
C'est comme ça qu'il nous a créé. Pourquoi il nous a créé?
Pour que tu aies une participation totale et entière avec ta responsabilité de ce que tu fais.
Ça veut dire qu'on est pleinement responsable de
Écoute-moi, si tu n'étais pas libre de choisir contre Dieu, même ce que t'aurais fait pour Dieu, c'est en réalité robotisé. C'est pas vrai. Tu es un robot de Dieu. Tant que tu ne peux pas être contre lui, tu n'as aucune mitzvah qui est valable. Parce que tu n'as pas de choix. Dieu, il n'a pas créé des robots à fabriquer des mitzvot. Il t'a fabriqué avec la possibilité de te détacher complètement de lui, de lui tourner le dos. C'est à cette condition-là que quand tu feras une mitzvah, tu vas la faire pleinement. C'est tout. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ou le masculin et féminin, ils ont collé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun choix. Donc il les a séparés pour leur donner le choix de se choisir. Ton véritable choix, c'est de choisir. Mais si tu es robotisé par Dieu, tu ne sers pas Dieu. Au départ, ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix. La preuve, c'est qu'il a choisi de se marier avec elle. Pas du tout. Au contraire, on lui a donné son libre arbitre. Pas du tout. On lui a donné. Qui? Mais non.
Donc la faute, il n'avait pas libre arbitre.
Endavar kaze. Ou alors vous avez mal compris ce que vous avez dit, ce qu'on vous a dit.
Okay.
L'homme dans sa création intérieure, il voulait, il savait, il était conscient, il a fait pour les générations à venir. C'est ça que ça veut dire. Mais s'il n'a pas le choix, alors tout est vendu d'avance. Tout ce monde, c'est du baratin.
Mais non, le but du monde, c'est ce monde-ci.
Encore une fois.
C'est pas le Gan Eden. Donc la fabrication, première heure du sixième jour.
C'est-à-dire, on rentre maintenant dans des détails qui ne sont pas au niveau de notre cours. On ne parle pas du même degré de faute. Mais la faute est toujours vis-à-vis d'un choix. Sinon, ce n'est pas une faute. Tu ne peux pas, entre guillemets, en vouloir à quelqu'un s'il n'a pas fauté volontairement. Qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Okay? Donc, tu es obligé d'avoir un libre arbitre. Okay? Il faut juste, c'est des nuances. Il faut bien, bien comprendre les nuances. Okay? Dans les cours, il faut bien comprendre des nuances. C'est là. Que les choses soient prévues. Okay? C'est un autre degré. C'est-à-dire que Dieu sache ce que l'homme va choisir, c'est autre chose. Parce que Dieu, il est en dehors du temps et de l'espace. Mais l'homme, quand il choisit, il choisit.
Quand tu dis qu'il a créé quelque chose, une pierre insoulevable, même pour Dieu, le braquage de l'enfant.
Ça, c'est encore une question de philosophie. Est-ce que Dieu est capable?
Mais on a dit oui, c'est lié de ça.
Mais oui, le libre arbitre, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il est l'homme a un choix véritable. Que même Dieu ne peut pas intervenir. Parce qu'il a créé comme ça. Entre guillemets. Okay. Encore une fois, il vient de me poser la question, il ne peut pas aller contre ce qu'il a posé lui-même. Mais dit, est-ce que Dieu peut créer une pierre que lui-même ne peut pas soulever? Alors, tu dis non maintenant.
Non.
Ah, alors.
Non.
Arrête de nous embrouiller. Okay. Moi, j'ai l'esprit libre, hein, tranquille. Okay. Et clair. Baruch HaShem. N'essayez pas de nous embrouiller. Non. Tu as le libre arbitre et tu es maître et responsable de ta propre vie. C'est vous qui fabriquez votre vie. Et la couleur de votre vie, elle aura la couleur de vos choix. C'est tout. Et non, à quand l'ayons.